Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas vieille ? Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement en se racontant ? Que se passe-t-il quand on vieillit ? Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui ne se dit pas ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas ? Pourquoi pas vieille ? Réalisé par Alexia Guignard.
Je m'appelle Alexia et j'ai une émission qui s'appelle Pourquoi pas vieille, une émission radio.
Oui.
Je peux vous poser quelques questions ?
Allez-y.
Donc qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce titre d'émission Pourquoi pas vieille ?
Ça m'évoque que je laisse pousser mes cheveux blancs en ce moment. Hein. Je ne fais plus de teinture, pourquoi pas vieille dans le fond ? C'est un peu ça peut-être.
Est-ce que tu attends d'une émission qui parle de vieillesse ?
De vieillesse, bah, que ça fasse appel à du coup, des personnes qui sont entièrement concernées, donc déjà des personnes du milieu de la vieillesse et des personnes qui subissent aussi cette vieillesse-là.
Qu'est-ce que vous attendez d'une émission qui s'appelle Pourquoi pas vieille ?
Qui met en valeur la vieillesse.
Pourquoi pas vieille ? Bah oui, pourquoi pas vieille ? On a le droit de vivre longtemps, en bonne santé. D'avoir de la ressource pour vivre notre vie comme on l'entend, avoir du plaisir aussi. Tout ce qui fait qu'on tient debout et qu'on avance et qu'on est bien là où on est et qu'on a envie de continuer et qu'il n'y a pas de raison, malgré l'âge, qu'on ne soit pas bien où on est, là où on est.
Troisième épisode de notre série Vieillesse et Liberté, rencontre avec une infirmière d'EHPAD.
Je m'appelle Marielle, j'ai 55 ans, je suis infirmière en EHPAD. La perception que les gens peuvent avoir des EHPAD, je vois bien que c'est un sujet qui fait peur. On tire à boulet rouge là, depuis la sortie du livre « Les Fossoyeurs » sur les EHPAD. J'entends des gens de 70 ans dire « je n'irai pas en EHPAD », mais en fait aujourd'hui on n'entre pas en EHPAD à 70 ans, à moins d'avoir une démence très avancée, d'avoir fait un AVC massif, ou voilà. Aujourd'hui les maisons de retraite telles qu'elles existaient avant, ça n'existe plus en fait, les gens rentre en EHPAD parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. C'est pas un projet, on se dit pas à 60 ans, tiens, dans 10 ans, je rentrerai bien en EHPAD. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Mmh. C'est la dernière solution, je dirais.
Quand tu dis il n'y a plus de solution, ça veut dire quoi ? Enfin, pour la famille, en fait ?
Oui, pour la famille, pour les gens qui sont seuls et isolés aussi, qui tombent chez eux la nuit, qui vont parfois passer une nuit entière au sol, et qui finalement vont se dire bon là il est temps que peut-être je change en fait mes habitudes et j'accepte d'entrer en EHPAD, voilà, c'est un non-choix en fait.
Et comment ça se passe quand vous accueillez, enfin quand il y a une nouvelle personne qui arrive
Alors déjà, avant que les gens entrent en établissement, on a une équipe, une infirmière coordinatrice et une psychologue, un médecin coordinateur qui vont à domicile voir la personne, discuter avec elle, lui expliquer le fonctionnement et recueillir son consentement. On ne met plus les gens en EHPAD sans leur consentement, sauf évidemment les gens qui ont des démences et qui ne sont plus à même... de donner leur consentement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la personne, quand elle arrive, elle visite avant de venir s'installer. Elle choisit sa chambre quand il y en a plusieurs. Et le jour de l'arrivée, ils sont accueillis par l'infirmière coordinatrice ou le médecin coordinateur ou l'infirmière. Ça dépend un peu qui est là ce jour-là. On les accompagne dans leur chambre, on leur réexplique le fonctionnement, on leur dit qu'on viendra les chercher, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que bien sûr au départ ils vont être un petit peu perdus. C'est difficile, hein, c'est vraiment pour eux, ils renoncent en fait à tout ce qu'ils ont vécu dans leur univers pendant parfois de nombreuses années. ils se retrouvent dans une collectivité, donc avec forcément des horaires, des règles à respecter. On essaye de tenir compte de leurs habitudes. On leur demande à quelle heure ils ont l'habitude de se lever le matin, qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner, des choses comme ça. On les rassure en leur disant que leurs familles, évidemment, pourront venir les voir. Il n'y a pas d'horaire de visite là où je travaille. S'ils veulent venir manger avec leurs parents le soir et rester regarder un film, c'est possible. Enfin, on essaye de faire en sorte de leur laisser le plus de liberté possible. S'ils ont envie de sortir, partir du moment où ils n'ont pas de troubles cognitifs qui font qu'arriver au bout de la rue, ils vont se perdre. Ils peuvent aller se promener seuls s'ils veulent. Ils peuvent aller au PMU, ils peuvent aller à l'église puisqu'on est dans le bourg. Ils peuvent aller se promener avec leur famille, aller passer la journée, le week-end, une semaine en famille s'ils veulent. Regarder un film le soir s'ils en ont envie ou pas. Suivre un match quand il y a des matchs de foot. Certains sont intéressés par les matchs de foot, soit le regarder seul dans leur chambre, soit en groupe. S'ils ont envie de fumer, ils ont le droit de fumer à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a des risques, forcément, il y a des alarmes incendies partout. S'ils ont envie de boire du vin, ils boivent du vin. S'ils ont envie de s'inscrire pour aller au coiffeur, ils vont au coiffeur. Voilà, ils ont envie de se lever à 9h du matin ou... Le petit déjeuner, c'est entre 8h et 10h, par exemple. Donc, ça laisse le temps, en fait. Voilà. Ceux qui ont envie de rester un peu au lit, restent au lit. Ceux qui n'ont pas envie de se lever ont le droit de ne pas se lever.
Et toi, ton quotidien, comment ça se passe quand tu arrives au travail, est-ce que déjà c'est toujours les mêmes horaires? Est-ce que tu...
Non, c'est pas toujours les mêmes horaires. On a deux secteurs, on a un secteur ouvert, un secteur fermé. Dans le secteur ouvert, on commence à 7h. Et dans le secteur fermé, il y a une deuxième infirmière qui arrive à 9h en fait. On arrive un peu plus tard. Les gens prennent plus le temps, ont plus besoin de temps. Certains vont dormir même jusqu'en fin de matinée dans ce secteur-là.
Et c'est quoi, secteur ouvert, secteur fermé?
Alors, le secteur fermé, c'est le secteur, ce qu'on appelle un cantou. Donc, pour les personnes qui ont des démences, Alzheimer, entre autres, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, et qui déambulent, en fait. Qui déambulent jour, nuit, qui peuvent... fuguer, partir, vouloir partir. Ils ont une idée en tête, ils veulent rentrer chez eux, aller se promener, aller voir des amis, mais ils vont se perdre au bout de la rue, quoi. Donc, les laisser sortir seuls, c'est pas possible. Ils peuvent sortir avec leur famille ou avec des accompagnateurs, des animateurs, mais pas tout seul.
Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives ?
Le matin, je commence par lire les transmissions. Ça nous prend du temps, mais c'est important. C'est de savoir ce qui s'est passé la veille, la nuit, les jours précédents, si on n'a pas été là les jours précédents, pour reprendre un peu le fil de tout ce qui s'est passé et ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Ensuite, on s'organise en équipe avec les aides-soignantes, les agents qui sont là pour servir les repas, les petits déjeuners le matin. Qui, par exemple, quelqu'un qui a été malade dans la nuit, on va lui servir un plateau, il ne va pas prendre son petit déjeuner en salle à manger. Avec les aides-soignantes, on se met d'accord pour telle personne, elle n'était pas en forme, est-ce qu'elle va se lever aujourd'hui? On verra, on attend un petit peu, on s'appelle, il y a un pansement à faire dans telle chambre, donc vous m'appelez, je viens. Quand vous serez prête, vous m'appelez, en général ça se passe comme ça. Et puis ensuite, je commence à distribuer des médicaments. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On passe de chambre en chambre. On commence par tous les gens qui sont alités, en fait, qui ont leur petit déjeuner en chambre. Et ensuite, on distribue les médicaments dans la salle à manger. Parce qu'on a une grande salle à manger, en fait. Et les gens, tous ceux qui peuvent et qui veulent, mangent plutôt dans la salle de restauration. En fait, c'est des tables. Ils ont leur place. Ils sont plusieurs... par table, par affinité. Et donc, ils prennent leur petit déjeuner. Au fur et à mesure qu'ils prennent leur petit déjeuner, ils arrivent au compte-gouttes et nous, on distribue à ce moment-là. C'est le moment aussi où ils ont beaucoup de choses à nous dire. En général, s'ils ne nous ont pas vus pendant un jour ou deux, c'est un moment important quoi, d'échange.
Qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là?
Ils vont nous raconter ce qu'ils ont fait, par exemple, la veille, s'ils sont allés en sortie chez leurs enfants, ou ils ont fait une animation particulière. Ou alors, c'est l'occasion aussi de nous dire qu'ils ont tous leurs petits problèmes, en fait. J'ai pas bien dormi, il y avait du bruit dans la chambre d'à côté, ou il y avait du bruit dans le couloir, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ou ben là j'ai mal à tel endroit, j'ai tous les petits bobos en fait, c'est à ce moment-là en fait qui nous souvent qui nous en parle. Nos résidences sont beaucoup de gens de la campagne et il y a quand même pas mal de gens qui vivaient très isolés, hein, dans des fermes, des vieux garçons. Donc, pas d'enfants, parfois des neveux, des nièces, mais qui habitent pas forcément à côté, et qui sont très âgés aujourd'hui, mais qui sont arrivés à une époque où, on rentrait assez tôt en EHPAD, par rapport à aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on rentre à quel âge par rapport à avant ?
Je dirais pas avant 85 ans, quoi. Enfin, on a beaucoup de gens qui arrivent qui ont plus de 90 ans. 95, 96, qui sont restés chez eux le plus longtemps possible, en fait. Et à un moment donné, ça devient trop difficile pour les enfants, pour l'entourage, qui les accompagne depuis des années, qui vont tous les jours les voir, qui leur font leurs courses, qui les amènent à leur rendez-vous, qui sont là... en alerte jour et nuit, au cas où une chute la nuit, un problème médical aussi la nuit, ça arrive. Hein. Les infirmières libérales les accompagnent aussi, les aides à domicile, enfin, il y a pas mal d'intervenants. Mais il arrive un moment où ça devient vraiment, vraiment trop compliqué pour tout le monde. Et parfois, on a des gens qui arrivent, qui se sont dit jamais, jamais de la vie. Je rentrerai en structure et finalement ils essayent d'aller jusqu'au bout, mais il y a un moment où ça devient trop compliqué.
Et comment elles le vivent une fois sur place? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'elles arrivent à exprimer le fait que finalement ça se passe bien? Enfin,
oui, ça dépend. Certains se disent, c'est vraiment difficile, j'aurais peut-être dû essayer d'aller jusqu'au bout, chez moi, entourée des miens. Et puis certains se disent, finalement, c'est pas comme j'avais imaginé, parce qu'ils ont connu aussi des gens qui étaient dans les maisons de retraite à une époque. Et avant ça, c'était ce qu'on appelait les hospices, et c'est vrai que c'était des salles communes, des trucs pas sympas du tout quand même. Et ils ont des représentations en fait. C'est pour ça qu'on leur demande de venir voir avant. Ils ont la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des séjours temporaires. Nous, on a 7 chambres d'accueil temporaires. Ce qui permet, par exemple, à certaines périodes de l'année, quand c'est plus difficile pour tout le monde, l'hiver, souvent, les gens sont plus fatigués, plus déprimés. Ils peuvent venir passer un mois, par exemple, même 15 jours, s'ils veulent. Et ça leur donne un avant-goût, en fait, de ce que c'est. Et certains, ça les décide finalement à venir, parce qu'ils se disent, ouais, je veux bien venir.
Mais qu'est-ce qui leur plaît, du coup? Enfin,
C'est sécurisant, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. C'est aussi un milieu rural, donc les gens se connaissent. Et ils retrouvent des gens qui connaissent. Et quand ça se passe comme ça, on sent un gros soulagement quand même de la part des familles, qui, du coup, se montrent aussi, je pense, plus dans... Comment dire, assez disponible en fait, parce qu'ils se libèrent du temps, hein, du fait que leurs parents soient en structure, et se montrent disponibles pour eux le week-end, ou en semaine si les enfants sont eux-mêmes retraités, parce que si les parents ont 96 ans, les enfants ne sont pas tout jeunes non plus, ben, ils viennent assez souvent les voir, sortent pas mal avec eux. Enfin, dès que les beaux jours reviennent, là, ça... y a du monde, ça circule, et les gens sortent pas mal. Ouais.
C'est un lieu de vie, quoi, finalement.
C'est un lieu de vie, normalement. Ça devrait l'être, en tout cas.
Tu parlais des représentations qui sont le plus souvent négatives. C'est aussi lié peut-être aux conditions de travail.
Oui, mais c'est aussi une réalité. Je pense qu'il y a, on a beaucoup parlé des EHPAD de la chaîne Orpea. Ce sont des EHPAD privés à but lucratif. Donc, qui dit but lucratif, dit voilà, gagner de l'argent. Hein. C'est clairement ce qui se passe. Maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça partout. C'est vrai que les conditions de travail ne sont pas toujours simples. Le Covid nous a fait beaucoup de tort. La crise, entre guillemets, le scandale Orpea nous a fait beaucoup de tort aussi. Et je pense que beaucoup d'aides-soignantes, surtout les aides-soignantes en fait, qui sont parties, ou ne sont pas venus en tous les cas travailler dans les EHPAD. Donc on est très souvent à flux tendu. En fait, il y a beaucoup d'absence, beaucoup de manque de personnel, du mal à recruter. Les salaires ne sont pas attractifs. On travaille les jours fériés, les week-ends, voilà. Donc et en plus, on est mal considéré. Donc, ça fait beaucoup quand même.
Ouais.
Et
toi, tu as toujours fait ça ?
Non, je n'ai pas toujours fait ça. En tant qu'infirmière, oui, j'ai toujours fait ça. Mais avant d'être infirmière, je faisais autre chose.
D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles en tant qu'infirmière dans un EHPAD ?
11 ans. C'est moi qui ai choisi d'être infirmière et c'est moi qui ai choisi d'aller travailler en EHPAD. Ça existe.
Mais pourquoi ?
Eh bien, parce que... Justement, ce sont des lieux de vie, normalement. Et on accompagne les gens sur des longues durées, en fait. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'on tisse des liens avec eux. Et on est très proche, en fait, de certaines personnes. Hein. Certains ont peu de famille et ils nous le disent, en fait. Heureusement qu'on est là pour eux. C'est... voilà. Donc, je trouve que c'est quand même... C'est pas rien, quoi. En fait, on est trois infirmières dans la structure. L'une de mes collègues est là depuis pas mal d'années aussi. Je pense que ça fait bien 7 ans qu'elle est là. Elle a fait ce choix également. C'est pas par dépit, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose, parce qu'on est des mauvaises infirmières et qu'on n'est pas capable d'aller travailler ailleurs. C'est pas pour ça.
Tu te vois vieillir comment ? Enfin,
Eh bien, avec ce que je vois tous les jours, justement. On se rend compte à quel point... À quel point c'est important de prendre soin de soi, de mettre en place pas mal de choses dans son quotidien pour bien vieillir, pour savoir où on va et en bonne santé, quoi. Donc un suivi évidemment médical, une bonne hygiène de vie, un entourage, tout ça c'est important, quoi. On sait que tout peut nous tomber dessus, on ne choisit pas en fait. Hein. Il y a tellement de choses possibles, mais on voit aussi des gens qui arrivent à un certain âge, finalement qui n'ont pas eu de gros problèmes de santé, mais qui ont eu une vie un peu de patachon. Et une fois que les dégâts sont là, c'est difficile de... On peut avoir des regrets, enfin ça, c'est trop tard, quoi.
Et vous avez des discussions avec les personnes sur ce que c'est de vieillir, sur le fait d'être vieux,
oui, ils nous disent tous que c'est terrible en fait, hein.
Ouais.
C'est un peu effrayant. Hein. ils nous disent que c'est terrible de vieillir parce que tu peux avoir toutes tes capacités cognitives intactes et puis ben, ton corps ne suit plus en fait. Il y a des gens très âgés qui font plein de choses, hein, intellectuellement parlant, mais ils ont plus de mal dans leur relation avec les autres, dans la communication, parce qu'ils entendent moins bien, par exemple. Ils voient moins bien. Donc, pour se déplacer, ça devient plus compliqué. Et puis, après, il y a toutes les petites douleurs d'arthrose, la difficulté à marcher à un certain moment. Donc, ils vont se déplacer plutôt en fauteuil roulant. Et là, ils vont être plus dépendants des autres, plus limités dans leur quotidien pour participer à un tas de choses, hein, pour pouvoir sortir seul, pour plein de choses qu'on ne peut plus faire. On renonce, en fait, c'est un renoncement à beaucoup de liberté. Parce qu'on parlait de liberté tout à l'heure. Voilà, j'ai envie d'aller me promener, il fait beau, ben, faut attendre que quelqu'un veuille bien t'accompagner. Donc,
Donc comment ils se recréent ces espaces de liberté,
Déjà, ils sont très volontaires, moi je trouve. Hein, j'admire les gens qui ont un courage de dingue, quoi, qui vont quand même prendre le risque de sortir avec leur déambulateur, coûte que coûte, ou en poussant eux-mêmes les roues du fauteuil roulant, ou, pour se déplacer. En fait, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est « je sais que si j'arrête, je ne ferai plus rien et c'est la fin ». Donc, ils s'accrochent et c'est une lutte quotidienne, en fait. Hein. C'est impressionnant, hein. La volonté des gens. Enfin, franchement, moi, ça me bluffe. Hein. Je trouve ça incroyable.
Dans l'espace fermé, comment tu appelles ça ?
Le secteur fermé,
comment...
Alors là, on parle de liberté. C'est une grosse privation de liberté, puisque les gens ne peuvent pas sortir seuls. Et ça, c'est terrible, en fait. Hein. Mais... on est aussi dans une société où on n'accepte pas de voir quelqu'un déambuler à l'extérieur, se perdre, se déshabiller. Parce que c'est ça la réalité, le quotidien. C'est des gens qui ont des démences bien avancées. Il n'y a plus de filtre, en fait. Ils ont envie d'aller aux toilettes, ils vont se déshabiller dans la salle de vie, quoi. Enfin, ça, c'est la réalité, en fait. Et s'ils sortent seuls, ils vont se déshabiller dans la rue, ou insulter les autres, croiser quelqu'un sur le trottoir, l'agresser verbalement, puisque la personne va se sentir agressée. Alors, nous, c'est vrai qu'on les connaît déjà, on a l'habitude de ce genre de choses, mais les insultes, c'est notre quotidien. Ça peut être une agression physique aussi, hein. Les coups, c'est aussi quelque chose de récurrent. Les gens qui ont des démences, ont des comportements, les démences frontales par exemple, peuvent avoir comme ça des comportements parfois... Il y a de l'agressivité, en fait. Alors, il y a une raison, il y a toujours une raison, mais au premier abord, tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu ne comprends pas tout de suite. Voilà, c'est quand même pas facile.
Ouais, c'est un sacré métier.
Pour les familles, c'est terrible. Certaines familles vont accompagner très loin leurs parents, malgré tout ça. Et puis, il arrive un moment où ce n'est plus possible, en fait. Ce sont aussi des personnes qui ne font plus, parfois, la différence entre le jour et la nuit. Donc, faut imaginer quand on a chez soi son parent dément, en fait. C'est nuit et jour, hein,
ouais,
qu'il faut être présent. C'est pas de tout repos. En fait, l'idéal, ce serait des petites structures. Ce qui existe au Canada, entre autres. C'est vrai que nous, ici, on a plutôt des grosses structures et on continue à construire des trucs énormes. Ça manque d'humanité, ça. Je trouve que on serait beaucoup mieux dans des petites structures, en fait. Ce serait beaucoup plus humain et avec, évidemment, l'éternel sujet, plus de personnel pour accompagner les gens, quoi. Parce que ce sont quand même des gens, les personnes âgées, qui ont besoin d'aide à différents niveaux, quoi. Ils sont ralentis, ils ont mal partout, ils ont besoin qu'on les aide dans tous les actes de la vie quotidienne. Alors, certains plus que d'autres, mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées du matin au soir et la nuit. Et, enfin, ça demande quand même énormément de présence, quoi.
En tout cas, c'est sportif de travailler dans ce...
C'est sportif, oui. C'est physiquement, parce que c'est des établissements qui sont grands, donc on se déplace beaucoup, mais psychologiquement, surtout, c'est quand même... on est sollicité en permanence. Et c'est stimulant aussi, parce qu'on a un vrai... comment dire, un rôle utile, on se sent vraiment utile... Et on est souvent remercié par les familles, par les résidents. Enfin, les gens montrent beaucoup leur gratitude, je trouve. En fait, les personnes âgées sont très ritualisées sont déstabilisées dès qu'ils ont affaire à des gens qu'ils connaissent peu. Ça les sécurise, en fait, de voir des gens qu'ils connaissent, quoi. C'est vrai que ça peut rendre les choses plus compliquées. Par exemple, au moment d'aller se coucher le soir, si on est accompagné par quelqu'un qu'on connaît bien, on est en confiance et tout se passe bien. Et si c'est quelqu'un qu'on connaît moins, alors ça peut bien se passer, ça se passe bien souvent, mais ça peut être très compliqué aussi. Ils râlent quand... ils voient des nouvelles têtes, ils nous disent « Oh non, encore des nouveaux. » Et qui va s'occuper de moi tout à l'heure? Et qui sera là tout à l'heure? Et qui sera là cette nuit? C'est normal, quelque part.
C'est leur vie intime aussi.
Oui.
Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien faire dans ton travail? Qu'est-ce qui te plaît quand tu arrives là-bas? Ou est-ce qu'il y a des choses...
Discuter, parler avec eux, c'est ça le plus sympa dans ce métier. C'est vrai que c'est vraiment moi ce qui me plaît le plus.
Vous parlez de quoi?
De tout. Enfin, comme tu discutes avec tes voisins, ou de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le village, d'eux. De ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils n'ont pas envie de faire, de leur passé aussi. Ils nous racontent plein de choses, hein, sur leur vie. C'est intéressant, d'ailleurs. Et impressionnant, parfois, de voir leur vécu et puis... Et puis la vie aujourd'hui telle qu'elle est, en fait, quand des gens qui ont 95, 96 ans et qui ont la visite de leurs arrière-petits-enfants, le choc, en fait, l'écart entre leur mode de vie, comment ils ont vécu, eux, et comment vivent les jeunes aujourd'hui, ils parlent beaucoup de ça, en fait, ça les impressionne.
Ouais.
Tous ces changements-là, c'est fou, en fait. Comme la vie a changé en un siècle, c'est sûr. Quand on vieillit nous-mêmes, déjà, on se dit « Oh là là, moi, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, on n'avait pas ça, on n'avait pas ci, on ne faisait pas comme ça. » Alors, on peut imaginer des gens qui ont presque un siècle, ce que ça représente pour eux.
C'était « Pourquoi pas vieille ?» réalisé par Alexia Guignard. Merci à Lisiane, Marielle. Merci aussi aux personnes rencontrées dans la rue qui ont bien voulu prêter leur voix.
Une mère. pour chanter l'amour. Une qui serait jolie, qui le serait toujours. Une qui serait toujours belle, nouvelle. Une qu'on chanterait encore et encore jusqu'à notre mort. Une mélodie, celle du bonheur, qu'on aurait appris et qu'on chanterait en chœur. Où faudrait qu'elle soit forte, oui qu'elle porte loin, jusque dans les hauteurs, en couleur, nous porte un bonheur, bonheur. Fausse note aucune, qu'on chanterait ici au clair de la lune, oui mais même sous l'orage des nuages, même pendant la tempête, en trompette, ce même message. Mais faut pas qu'on le temps se t'aime, faut pas qu'il s'enfuit dans le vent ce poème. Si do ré mi, et donnez-nous le ton, le bon, et donnez-nous la clé de la chanson.